France Musique. Les grands entretiens, Rodolphe Bruno Boulmier. France Musique.
Je m'appelle Claude Delangle, saxophoniste. Je suis né le 4 juin 1957 à Lyon.
En 1988, Claude Delangle, vous avez 31 ans, vous êtes nommé professeur de saxophone au Conservatoire de Paris. Vous succédez d'ailleurs à Daniel Defayet, votre professeur. Quel souvenir vous avez de cette période ?
J'étais très jeune, trop jeune peut-être aussi, trop jeune pour les élèves qui étaient là dans la classe, qui avaient pour certains que 2 ou 3 années de moins que moi. Donc l'autorité, on passait d'un professeur qui pesait 3 fois mon poids, un gringalet de 31 ans, un berbe. Pour l'école française de saxophone, c'était ressenti par beaucoup comme vraiment, on tombait vraiment bas quand même. Donc ça a été très bon pour moi parce que ça m'a demandé beaucoup de patience, j'avais conscience de l'enjeu, j'avais conscience du renouvellement nécessaire et en même temps je voulais pas détruire. C'est vrai, j'ai jamais eu d'appétit pour les révolutions. Je trouve que ça n'apporte rien. Je suis pas un esprit très révolutionnaire. Pour moi, je pense que on se développe à partir d'un terreau. Et on crée à partir d'un terreau. Enfin, là, je n'avais pas vraiment envie de détruire de belles choses. Enfin, et là, il a fallu faire mes preuves. Il y avait vraiment, pour moi, un défi. C'était un défi. Et ça a été très bon. C'était vraiment, pour moi, une occasion de revoir la pédagogie et de prendre conscience que, de toute façon, in fine, un élève n'est pas le produit d'un professeur. Ça dédramatise aussi. J'ai appris à dédramatiser les choses et à voir que l'ensemble des professeurs, on avait un travail vraiment collégial et je ressentais que seul, j'étais pas habilité à assurer le parcours final d'un élève qui ensuite se retrouvait livré en pâture sur le marché.
Une maison dans laquelle vous êtes toujours, d'ailleurs, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Depuis 30 ans, on fête d'ailleurs, je crois, l'installation des 30 ans du Conservatoire à la Villette ces jours-ci. Quel professeur diriez-vous avoir été et comment est-ce que vous avez changé avec le temps ?
Professeur, je mettrai un pluriel, volontiers un pluriel. Le professeur a beaucoup changé parce que le niveau d'entrée a changé de manière absolument phénoménale. Et donc, le professeur s'est adapté au niveau. Et en même temps, ce déménagement qu'on fête ces jours, et d'ailleurs, France Musique est un partenaire important, extrêmement important, puisque rien n'est un lieu en présentiel. Donc, tout se fait finalement grâce à France Musique. C'est une belle maison, c'est une grande maison. Et l'architecture, je dirais, alors là, on n'en profitera pas forcément à l'antenne, mais ayant connu l'ancienne localisation, je peux dire que ça a changé radicalement. L'homme ne vit pas, ne transforme pas l'architecture, c'est l'architecture qui transforme l'homme. C'est pas pour rien que on oriente les églises à l'est, que voilà, les formes de l'architecture, elles définissent une ville. Une ville se définit par ses icônes architecturales, par une tour Eiffel, par un crayon à Lyon, et la musique change en fonction d'une architecture. Alors évidemment, en termes d'acoustique,
oui, premièrement. Mais vous voulez dire que le paquebot de Ports en Parc a peut-être permis au conservatoire d'entrer dans l'ère de la modernité.
Dans une nouvelle ère, et c'est vrai que je trouve que le conservatoire est une réussite. C'est très très beau, avec ce bassin devant, quand c'est en marche, c'est magnifique, c'est très très belle allure. La mixité sociale à l'intérieur du bâtiment, entre l'administration, les salles de répétition, les salles de cours, la transversalité générée par l'architecture, le fait qu'on puisse accéder très très vite à tout type d'espace, par des ascenseurs, des coursives, des passerelles. Si on peut un jour refaire des portes ouvertes, venez et voir et entendre le conservatoire. C'est un bâtiment typiquement musical. L'architecture de Ports en Parc le révèle, c'est le cours, c'est un événement. C'est pas une succession hebdomadaire à la même heure dans la même salle où un cours c'est un moment unique, c'est un moment de performance. Il ne s'agit pas de faire du cinéma de la part du professeur, c'est pas du tout un problème de théâtre ou de cinéma, c'est qu'il se passe quelque chose.
Et alors ça ressemble à quoi un cours de Claude Delangle ?
J'en sais rien. J'en sais rien, mais moi, franchement, je suis mal placé pour parler du conservatoire ou d'un conservatoire, parce que j'ai vraiment conscience d'être un assez mauvais professeur, au fond, mais un bon coach. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, je suis un assez mauvais professeur parce que j'ai jamais réussi à endosser vraiment le vêtement du professeur, du professorat. Parce que ma classe est trop expérimentale, parce qu'on y fait trop de choses bizarres on essaye trop de choses qui ne sont pas toujours abouties, on essaye.
Vous avez vu les élèves défiler et le rapport qu'ils ont au répertoire et à la création a changé au fil des années. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui vont plus facilement pousser les classes de composition et travailler avec leurs contemporains ou pas forcément?
De toute façon, dans un établissement comme le nôtre, qui est le conservatoire de Paris, le centre, l'épicentre du conservatoire, ce sont les classes de composition, c'est la création. Ce ne sont pas les classes d'instruments. Alors, je vais donner deux exemples. Je vais en donner un qui se situe pendant les répétitions avec Stockhausen, où si l'œuvre de Stockhausen ne comporte que 8 saxophones, c'est tout simplement, alors que j'avais 12 élèves, comme j'ai toujours aujourd'hui 12 élèves, c'est tout simplement parce que 4 n'avaient pas du tout envie d'être là. Parce que Stockhausen, ça leur disait rien du tout. C'était en plus du cours, ça prenait du temps. Eux étaient professeurs ici ou là, ou avaient leurs propres affaires. Et Stockhausen, ils n'ont pas mis les pieds au conservatoire pendant la semaine où il était présent. Moi, jeune professeur, on n'a pas fait trop de pression, on préférait que tout se passe bien. Et aujourd'hui, j'ai, on va dire, une dizaine d'anciens élèves qui sont compositeurs au plus haut niveau. D'ailleurs, l'un de mes élèves de l'époque, Jean-Denis Michat, qui est professeur à Lyon, est devenu compositeur sous le choc, l'électrochoc déclenché par la présence du gourou. En fait, c'est une toute autre présence. Aujourd'hui, si on est dépassé par ses rêves, vous voyez.
Et alors, l'autre grande personnalité de cette génération, c'est Stockhausen, que vous avez rencontré aussi.
Oui, et que Stockhausen a écrit pour moi, pour nous, je dirais, puisque c'est une œuvre pour 8 saxophones, que j'ai créée avec mes élèves au Conservatoire de Paris, qui était une commande magnifique d'ailleurs, qui était par une maison qui fabrique des anches et des becs de saxophone, la maison Vandoren, qui avait dépensé beaucoup d'argent pour cette commande-là. Donc Stockhausen a passé une semaine au Conservatoire à nous faire travailler, à diriger les répétitions. Il m'a beaucoup attiré en tant que compositeur. J'ai vraiment toute sa recherche sur l'espace, sur la projection du son, sur le rapport à l'instrument, avec son écurie comme ça de musicien. Mais en même temps, c'est ce même aspect-là qui m'a aussi un tout petit peu rebuté parfois, parce que moi, je voulais pas appartenir à un compositeur. Je voulais rester moi-même et pas faire partie d'une écurie. Entre nous, il y a eu un peu d'incompréhension, mais en tout cas, moi, j'ai avec lui quand même. C'était étrange, parce qu'en fait, tout ce qu'on reproche à Boulez, tout ce qu'on peut peut-être reprocher aussi à Berlioz de trop intuitif ou de Boulez de trop sec et trop précis, et trop... en fait, c'est Stockhausen qui le manifestait, à lui tout seul, tout en même temps. Un être très, très excessif, et très, très rigoureux. Et pour moi, là, pour le coup, la question de la confiance était vraiment en jeu, justement, parce que quand on appartient autant que ça au texte, quand la rigueur du texte devient tellement absolue, je commence à prendre un autre chemin.
Aujourd'hui, un étudiant qui sort de votre classe de saxophone, est-ce qu'il a finalement plus de possibilités que vous en aviez à l'époque ?
Pour moi, l'attitude par rapport à l'instrument a quand même assez radicalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, pas dire 30 ans, mais plutôt 40 ans, quand j'ai commencé à commander de la musique, à payer moi-même, à solliciter des commandes, écrire pour saxophone, c'était bizarre, quoi. Je me heurtais souvent à, c'était pas un problème d'argent, c'est un problème de nature, soit parce que c'était connoté jazz, soit parce que c'était connoté vibrato, ça faisait pas partie de l'instrumentarium possible. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement radical, parce que nos classes ont été considérées à égalité. Je ne vois vraiment pas de différence de traitement aujourd'hui entre une classe d'accordéon, de guitare, de saxophone, d'orgue, si ce n'est les répertoires qui diffèrent, bien sûr, et le traitement d'une classe de piano ou de violon. Mais la perspective du saxophoniste aujourd'hui, eh bien, on va dire post-Covid aussi, il faut quand même dire ça, c'est quand même la création avant tout, l'imagination et, je dirais, la diversité des carrières. Un musicien ne pourra pas se développer s'il n'a pas d'autres sujets d'intérêt que strictement jouer de son instrument, aussi bien en joue-t-il.
France Musique, les grands entretiens de Claude Delangle.
Claude Delangle, vous nous avez dit que au moment du conservatoire, lorsque vous êtes sorti, et la personne qui vous a le plus apporté musicalement, c'est Odile Delangle, votre femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous travaillez, parce qu'en fait, finalement, vous vivez avec celle avec qui vous jouez lorsque vous êtes en concert. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Odile Delangle?
Pas facile, mais c'est pour moi jouer est absolument lié au fait de jouer avec piano. C'est vrai que j'ai tout expérimenté, même les concertos, je les expérimente, les créations, je les expérimente d'abord avec piano. Et en fait, toute ma formation, une grande partie de ma formation, la formation de mon oreille, passe par le piano. Le piano est ma référence, en fait, en termes d'attaque, en termes de contrôle du toucher, en termes de... Et le grand répertoire du piano est mon modèle. Quand on sait, au plan acoustique, combien l'attaque définit la perception du son, c'est vrai que je pense que ma manière de jouer du saxophone est vraiment liée à la perception du piano, de la délicatesse de son toucher, à la fermeté de l'attaque également, et à l'harmonicité du son du piano. Pas seulement parce qu'on peut jouer un accord, mais parce qu'aussi le spectre harmonique de la corde du piano, en fonction des instruments avec lesquels on joue, on a eu la chance de jouer sur des instruments merveilleux aussi, il faut bien le dire. Et cette attitude du pianiste aussi, et qu'Odile a de manière, je dirais, naturelle, un pianiste ne joue jamais avec le même instrument. Mis à part Michelangeli qui transportait son piano, mais tous les autres pianistes s'adaptent et donc trouvent un phrasé, doivent réinventer en fait une musique. J'ai eu un rapport comme ça avec l'instrument, avec le saxophone, je dirais de manière un peu dégagée aussi. Vous savez, un instrument à vent, on souffle dans l'instrument, on l'a dans la bouche, c'est pas un biberon, mais pas loin. Enfin, je veux dire, on a une intimité avec l'instrument à vent. Bon, on peut dire de ça aussi de tout instrument, du violon, du violoncelle qu'on tient entre les jambes. Enfin bon, tout instrument génère une intimité avec celui qui le touche ou qui le met en mouvement. Mais l'instrument à vent, c'est très très particulier. Un attachement à notre instrument qui est d'ordre presque comme un autre soi-même. Et grâce au piano, je me suis pas détaché de l'instrument, mais je pourrais jouer avec des instruments très différents, des hanches et des becs très différents. Mais c'est vrai qu'on est un hybride, et donc on est très à la mode, parce que aujourd'hui, tout ce qui est hybride est bien.
Vous voulez dire qu'il est transgenre, le saxophone?
Mais pourquoi pas, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a un caractère féminin. Je pense que c'est un instrument qui a un caractère androgyne, il y a quelque chose qui est... voilà, peut-être phallique d'un certain point de vue, et cet aspect de l'acoustique de l'instrument, très vocal, très, on va dire, d'un point de vue positif, sensible, vocal, mais aussi d'un point de vue négatif, sirupeux aussi. Enfin, voilà, on peut aussi trouver...
Oui, kitsch par moment.
Kitsch, voilà. Oui, ben, ça, on joue beaucoup dans les publicités, ça, on se sert beaucoup de ce côté cliché, comme ça, du saxophone séducteur. Et on ne choisit pas un instrument pour rien. C'est un enfant qui a 8, 10 ans, 12 ans, choisit un instrument, c'est que... Il y a aussi quelque chose qu'il a à exprimer à travers cet instrument-là. Et si, en plus, il le garde pendant toute sa vie, c'est particulier quand même. Donc, et les saxophonistes ont généré un répertoire sirupeux, il faut bien le dire. Et j'ai essayé de me sortir du sirop, du sucre.
Thank you. Vous avez fait partie aussi de ces personnes qui ont pu changer notre perception du son du saxophone en donnant un son aussi beaucoup plus droit, en peut-être en enlevant un petit peu le vibrato qui était devenu exagéré il y a quelques années, en faisant du saxophone un son multiple avec des pièces pour électroacoustique. Je dirais que presque chez vous, il y a une dimension presque mystique du son du saxophone.
Alors ça, je ne sais pas si je peux en parler, mais oui, le mot est fort, mystique, je ne sais pas. C'est vrai que le son nous relie les uns aux autres.
Votre premier disque, c'est le saxophone seul pratiquement, enfin, c'est le son, enfin, l'un des tout premiers.
Voilà, ça c'est le premier enregistré chez Bis. Le son, c'est vrai que ça occupe une grande partie, surtout dans les jeunes années où on cherche sa sonorité, on cherche un son. Moi, ce qui m'a fait énormément de bien, bon, comme je l'ai déjà dit, il travaille avec les compositeurs, mais il y a un événement important, c'est que j'ai été très ami, je suis toujours très très ami avec quelqu'un qui est un chercheur en acoustique, professeur de physique à Alix, Xavier Boutillon, qui m'a traîné à Jussieu, au laboratoire d'acoustique musicale, avec Michel Castelingo, où on a fait des analyses spectrales de mon son, de son multiple, et j'ai vu ma sonorité. Ça a été suffisamment répétitif pendant quelques années. J'étais avec ces personnes-là où je voyais en temps réel ce que donnait ma sonorité réellement, ce qu'on entendait, ce qu'on ne percevait pas toujours, bien je pouvais le voir. Et cette vision du son, alors visibilité d'une part et vision d'autre part, vision qui englobe, qui touche beaucoup plus une question de imaginaire autour du son, m'a beaucoup aidé à me détacher aussi de perceptions comme ça un petit peu enfantines, je dirais, de la sonorité. Donc le piano a joué son rôle et je dirais le travail avec les spectros et au premier rang Griset quand on a travaillé à Anubis et Nout. L'écoute d'un Griset, le silence qu'il laissait entre mes propositions et sa réaction, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une analyse spectrale de mon son qui se faisait pendant ce temps, un calcul ou de manière plus poétique, une écoute de la résonance de mon son dans sa mémoire. C'est que le son devenait mémoire pour lui et c'est vraiment quelqu'un avec lequel j'ai là on n'en a pas parlé encore, mais Griset était un peu mon professeur, je dirais, en matière d'éducation sonore, le son dans ce qu'il a de justement peut-être de métaphysique. Lui, on sait son attachement, justement, on a tous suivi son Noir de l'Étoile avec la musique radio, entendu des astres comme ça. Moi, j'ai été éduqué dans le sens le plus noble par son écoute, son oreille, on peut dire, est devenue mon oreille, parce que j'ai entendu l'instrument différemment après avoir travaillé Grise, et ça c'est clair.
Sonore et ici Anubis de Gérard Griset pour quitter le saxophoniste Claude Delangle que nous retrouverons demain. Gilles Blanchard a réalisé cette émission avec Tahar Bouklifa à la prise de son, Cédric Chatelus au mixage et Flora Sternadel à la préparation. Toutes les références sont sur le site des grands entretiens francemusique.fr, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster.
À réécouter sur francemusique.fr.